pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Jacques Testard.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Alors Jacques Testard, vous êtes biologiste, vous militez pour la démocratisation des choix socio-techniques par le développement des conventions citoyennes et vous militez même plus largement pour une démocratisation de la décision politique. Et c'est dans cette perspective que vous avez publié il y a quelques mois « L'humanitude au pouvoir ». Comment les citoyens peuvent décider du bien commun. Alors, vous êtes un scientifique, directeur de recherche à l'INSERM, et vous publiez un texte qui est politique, c'est déjà une forme d'audace, et vous ajoutez à cette audace le fait de faire figurer dans le titre le terme d'humanitude, qui est un néologisme qui vous situera soit comme poète, soit comme héritier de Ségolène Royal, qui avait tenté un bravitude d'assez fâcheuse mémoire en 2007. Mmh. Alors ça fait beaucoup d'audace et beaucoup de risques, ce mot humanitude dans le titre, c'était pas un peu casse-gueule comme choix?
Non, l'éditeur, il a fallu que je le chauffe un peu pour y arriver.
Ouais.
Mais c'est un peu une provocation pour attirer l'attention.
Ouais.
Parce que comment les citoyens peuvent décider du bien commun, ça fait un peu pensum, truc, cours de philo, je sais pas quoi. Donc avec ça, c'était pour attirer l'attention avec la quatrième de couverture qui explique quand même ce que ça veut dire.
Ouais.
Et voilà, alors effectivement, c'est pas du tout en hommage à Ségolène Royal. Puisque je dois dire que je lui ai proposé ça en 2007, au moment des élections présidentielles. J'ai écrit plusieurs fois à son, ouais. à son service, à son... j'ai jamais eu de réponse.
Ah ouais, vous lui avez proposé ça, c'est-à-dire le principe des conventions citoyennes.
Absolument.
Pour oui. délibérer et arbitrer oui. sur des décisions de oui. l'ordre de l'intérêt général.
Oui.
Et elle a fait la sourde oreille.
Rien du tout, parce qu'elle parlait tout le temps de démocratie.
Ben oui, et de démocratie participative,
voilà.
qui était exactement
donc,
à la fois votre credo et en même temps une espèce de joujou dont il faut se méfier, parce que le mot démocratie participative est devenu un peu une espèce de leurre. Alors d'abord, peut-être faut expliquer à ceux de nos abonnés qui découvrent le concept, qu'est-ce que c'est que l'humanitude, cette étrange vertu qui tend à apparaître dans le contexte des conventions de citoyens. C'est quoi l'humanitude?
Alors l'humanitude, c'est une qualité double qui apparaît effectivement dans un contexte particulier. Donc là, dans des conventions de citoyens, mais on peut la voir apparaître dans une grève, dans une manif. C'est-à-dire un moment où il y a un élan commun entre des gens qui découvrent qu'il y a des ponts entre eux, qu'ils ont des accroches, qu'ils appartiennent à l'espèce humaine, parce que ça ne se voit pas tous les jours, et qu'ils ont des trucs qu'ils peuvent combattre ensemble. Alors, ça se manifeste de deux façons. D'une part, par l'empathie, c'est-à-dire on sent une proximité avec les autres. Donc ça rejoindrait un peu le concept plus classique de l'humanité.
L'humanisme ou l'altruisme, en fait.
Voilà. Alors, il y a ça qui est présent. Mais il y a quelque chose de plus qui donne une valeur extraordinaire, je crois, à ce mouvement, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que là, en particulier dans ce contexte, mais je crois que c'est aussi vrai dans des grèves où les gens inventent des moyens de se bagarrer, de continuer, il y a des idées géniales, il y a des dessins, il y a des... Bon, on l'a vu en 68, enfin moi je l'ai vu en 68. Donc cette intelligence collective ajoutée avec l'altruisme, l'empathie vis-à-vis des autres, c'est à mon avis une situation d'humanité tout à fait particulière qu'on ne voit que dans des occasions rares. Et je prétends qu'avec ces conventions de citoyens, on peut la créer délibérément. Et alors ça devient un outil extraordinaire parce que grâce à l'intelligence collective, mais aussi à l'altruisme, on peut déterminer ce qu'est le bien commun. Parce qu'il y a le bien commun dans le titre, mais on parle tout le temps de bien commun. Alors, il y a bien commun, il y a deux sens. On peut dire l'eau est un bien commun. Là, je veux dire le bien commun en général, c'est-à-dire ce qui est bon pour la grande majorité des gens. Qui peut déterminer ce qu'est le bien commun? Je ne vois pas en quoi les politiques seraient habilitées, ni un parti, ni une église, ni... Mais les gens, dans cette situation-là, quand ils n'ont pas d'intérêt particulier à défendre, parce qu'on va y venir au protocole... Oui. Et qu'ils sont dans cette situation d'humanitude, ils sont capables d'exprimer des propositions qui, à mon avis, ressemblent plus à ce qu'on pourrait appeler le bien commun, avec toujours la possibilité que ce ne soit pas exactement ça. Mais c'est vraiment ce qui va au plus près du bien commun.
Oui, et vous parlez même à propos des citoyens qui sont impliqués dans ces expériences de convention de citoyens, d'une mutation intellectuelle, affective et comportementale chez ces individus,
oui,
qui vont être amenés à produire un état d'eux-mêmes qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont.
Alors,
quand ils sont, par exemple, électeurs.
Je n'ai pas inventé ce constat. Tous les sociologues dans le monde entier qui travaillent sur les conférences de citoyens, on dira un peu, les conférences de citoyens, oui, c'est des modalités un peu brouillonnes de la convention de citoyens, qui est un truc...
Vous avez modélisé la convention de citoyens d'une manière beaucoup plus rigoureuse.
Pour qu'elle soit crédible, justement. Ouais. Mais déjà, dans la conférence citoyens, il y a l'humanitude qui apparaît. Et ça, tous les sociologues qui travaillent sur la démocratie, en France ou ailleurs, ils ont écrit des pages et des pages pour dire on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe. Enfin, ils ne disent pas on ne comprend pas parce qu'il faut qu'ils fassent semblant de comprendre. Mais ils s'étonnent quand même. Ils s'étonnent, ils disent, il y a ce truc-là. Et puis, les citoyens eux-mêmes, parce que j'en ai rencontré après des conférences de citoyens, qui disent c'est extraordinaire, je ne suis plus la même personne, je vais changer de métier, je vais quitter mon mec, je vais... Enfin, ça change beaucoup de choses. Et, bon, c'est pas le but. Hein. Mais c'est pour dire que les gens sont très, très... affectés vraiment dans leur personne, et en général, ils voudraient être de nouveau tirés au sort.
Ouais,
à quel
y a
point
peu de chance de se produire.
Il y en a qui aimeraient,
réalité,
comme ils se sont bien comportés, qu'on les rechoisisse pour autre chose.
Ouais.
À quoi, moi, j'ai eu l'occasion de répondre, mais un citoyen de conférence, ça ne sert qu'une fois.
Ouais.
Par définition.
C'est
d'ailleurs ça la force. C'est ça la force du truc.
Ouais.
C'est pas une sinécure comme les élus.
Alors, on parle de cette mutation intellectuelle, affective, comportementale qui fait tout à coup émerger chez les individus des qualités, des dispositions à la réflexion sur le bien commun, qualités qui semblent apparemment inhibées par les modalités de la démocratie représentative dans laquelle on est.
Oui.
Modalités pour lesquelles vous n'avez pas de mots assez durs. Vous êtes très critique vis-à-vis de la démocratie représentative, enfin démocratie avec des guillemets du coup, parce qu'en réalité la démocratie reste encore à trouver dans le modèle électoral dans lequel on est. Alors comment ça se fait que le modèle politique dans lequel on est inhibe à ce point les vertus citoyennes ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, mais comme vous dites, il y a deux hypothèses. Ou bien... c'est l'ambiance même de la Convention de citoyens qui crée ça de novo.
Ouais.
J'arrive pas à y croire, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps, il faudrait plus de moyens. Donc je pense que c'est seulement un éveil de quelque chose qui est là, mais qui est caché, qui est inhibé. Ça me paraît beaucoup plus probable.
Ouais.
Donc,
c'est quoi les facteurs d'inhibition ? Alors comment ça se fait que ces vertus-là soient inhibées dans l'état normal de notre démocratie ? Pourquoi les gens qui sont des humains si vertueux votent mal ou...
Je pense que c'est parce que notre démocratie n'est pas démocratique et qu'elle n'a pas intérêt à l'éveil de ça. Je l'ai vu d'ailleurs par les réactions des politiques en général. Ils sont gênés, ils se sentent menacés par ce truc-là. Et donc leurs prérogatives seraient mises en cause. À ce moment-là, avant même que le truc existe, quand vous me dites pourquoi c'est inhibé, je crois que la société est faite pour que les gens soient déresponsabilisés, soient isolés dans leur tête, qu'on ne développe absolument pas l'empathie, l'altruisme, mais la compétitivité, c'est quand même le maître mot de nos sociétés, et que pour ce qui est de l'intelligence, on explique aux gens qu'il y a les experts, qu'il y a ceux qui sont élus, c'est eux-mêmes qui les ont élus, donc il faut qu'ils leur fassent confiance. Et puis, cela se repose sur des experts qui, dans chaque secteur, auraient la vérité. Mmh. Et ça tourne comme ça. Mais non, les citoyens sont bien plus intelligents qu'on croit. Attention, je ne fais pas de démagogie, moi je ne crois pas du tout. Je vais vous dire, on va peut-être y arriver. Par exemple, pour moi, le référendum est un truc très dangereux.
Parlons-en.
C'est le sondage. Le référendum, c'est un sondage au niveau national.
Mmh.
Mais
et vous jugez donc que les référendums sont en ce moment fabriqués dans des conditions qui ne permettent pas du tout d'obtenir des réponses éclairées.
Sauf quand on a vraiment une mise en compte, quand on a une information donnée aux gens contradictoire, complète, quasiment obligatoire, comme c'est arrivé pour le référendum sur la Constitution européenne.
Alors justement, celui 2005, de 2005, pour le TCE, le traité constitutionnel européen, vous jugez que c'est un référendum qui s'est déroulé dans de bonnes conditions d'information des citoyens, celui-là.
Mais oui, parce que moi, je travaillais à cette époque-là, je voyais, on en parlait au boulot, des gens qui ne parlent jamais de politique. À la machine à café, on discutait, t'as vu hier, machin, les gens savaient de quoi on parlait. Et puis, catastrophe, ils ont décidé quelque chose qui n'était pas prévu par les médias et par les politiques. Alors, bon, la suite, on n'en a pas tenu compte. Mmh. Ça aussi, ça montre très bien dans quel type de démocratie on vit. On se moque vraiment du monde et les gens le sentent et c'est pour ça qu'ils vont même plus voter.
Mais c'est marrant que vous disiez que le référendum de 2005 s'est passé dans des conditions à peu près acceptables selon vos critères, alors que je me souviens qu'on avait fait un plateau Arrêt sur Image à l'époque sur France 5 en décortiquant combien il y avait eu de sujets médiatiques pour le oui et combien de sujets plutôt pour le non. Et il y avait un ratio de 90% de sujets favorables au oui et 10% favorables au non. Donc l'information avait été massivement biaisé quand même.
Oui, non, mais bien sûr, c'était manipulé. Mais il y en avait suffisamment, quand même, favorable ou non, pour que les gens qui ne sont pas idiots arrivent à piger que c'était là qu'il fallait faire quelque chose. Mais c'est un peu ce qui arrivait avec la première conférence de citoyens en France, qui portait sur les OGM, et qui a été organisée par l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, donc un groupe de parlementaires, dirigé par Jean-Yves Le Déo, député socialiste pro-OGM, qui a fait un truc qu'il a fait semblant de présenter comme objectif, mais dans lequel il y avait plein d'experts pro et il y avait très très peu d'expression des anti-OGM. Tout ça au nom de la science, de tout. Mais les gens ne sont pas cons. C'est une des conférences de citoyens les plus intéressantes qu'on ait faites. Et il y a eu, quand on regarde les résultats de cette conférence citoyenne, donc de 98, ça fait 17 ans, il y a eu plein de points, plein de propositions faites par les citoyens qui aujourd'hui encore ne sont pas appliquées, mais certaines ont commencé à être appliquées. Et c'était vraiment, ils se sont comportés de façon extraordinaire. Donc les gens, pourvu qu'il y ait un petit peu quand même, un petit peu de quelque chose qui soit conforme au bien commun, ils arrivent à le capter. Et ils savent que c'est là qu'il faut s'engouffrer. Alors c'est vrai pour le référendum, c'est vrai pour cette conférence de citoyens. Je crois qu'ils sont assez sensibles. Mais il faut pour ça qu'ils soient mobilisés. Il faut qu'ils soient à l'écoute. Donc, dans l'histoire du référendum, les gens étaient à l'écoute parce qu'ils ouvraient TF1 et on leur parlait de ça, ce qui n'est pas courant quand même. Donc, ils étaient un peu obligés d'assumer en attendant de voir une chanteuse ou autre chose. Mais ça rentrait peu à peu. Et dans le cas des conventions ou des conférences de citoyens, c'est des gens qui ont accepté de jouer le jeu après avoir été tirés au sort, pas avant. C'est-à-dire, ils sont tirés au sort et on leur demande s'ils veulent bien. Et ceux qui veulent bien, qui représentent peut-être un tiers de ceux qui sont tirés au sort, ceux-là vont jouer le jeu complètement.
On peut supposer d'ailleurs qu'ils ont des dispositions à l'humanitude sans doute un peu supérieures, parce que dès lors qu'ils sont en effet volontaires pour participer à cette expérience qui est une lourde responsabilité, coûteuse en temps et non rémunératrice, vous êtes très attaché au principe du bénévolat des tirés au sort. Il ne faut surtout pas les payer, parce que sinon après c'est la rémunération qu'ils cherchent et non pas le bien commun. Et donc, en fait, en appliquant ce filtre du volontariat sur les tirés au sort, en fait, vous faites une sélection, vous gérez... Générer une espèce d'aristocratie légitime, en fait.
C'est les meilleurs
au sens étymologique.
Le but, c'est d'éviter que des gens viennent dans un truc en traînant des pieds. Et comme c'est un gros boulot, c'est un investissement terrible pendant plusieurs mois.
Ouais. Enfin, si j'ai bien compris, le dispositif, c'est un premier week-end de formation, un deuxième week-end.
Oui, mais entre... ils ont plein de trucs à lire. Ouais. Ils ont des vidéos à visionner. Ouais. Ils se téléphonent. Il y a quand même plein de choses. Donc, ça veut dire qu'ils sont sous tension pendant 2-3 mois. Les gens, quand même.
Ouais.
Pour 3 week-ends seulement, des week-ends espacés, parce qu'ils préparent aussi. Et comme on va y venir peut-être, le dernier week-end, c'est eux-mêmes qui l'organisent. Donc ils sont bien obligés de prendre des initiatives. Autrement dit, c'est quand même un travail, un véritable travail. Et si les gens ne sont pas convaincus, bon, il y a déjà un peu ça pour la cour d'assises, où on dit que c'est obligatoire. Mais en fait, quand les gens disent « j'ai un peu mal à la gorge » ou « ma belle-mère est morte », je sais pas quoi, bon, on leur donne assez facilement la permission de pas venir.
D'accord.
Et il vaut mieux parce que c'est beaucoup moins d'investissement à la cour d'assises que ça, mais malgré tout, on peut pas jouer ce jeu de l'altruisme si on n'est pas vraiment disponible, quoi. Alors, est-ce que ça peut être aussi à une certaine période, peut-être que des gens qui refusent de faire ça ou le thèment, qui ne les intéresse pas. Ils l'auraient accepté pour autre chose.
Un autre moment, ils accepteront.
Là, il y aurait des études à faire. Moi, je crois que ça n'a jamais été fait. Mais ce que je vois, c'est que les gens qui acceptent de jouer le jeu constituent une espèce de super-humanité, en ce sens qu'ils gagnent l'humanitude. Et que ce n'est pas de l'élitisme, parce qu'ils ont été tirés au sort.
Parmi les citoyens lambda. Alors, dans le dispositif que vous décrivez, on voit bien qu'il y a deux endroits un petit peu critiques, en fait, dans le processus. C'est en amont la question des experts, parce qu'il faut quand même des experts pour informer ces citoyens lambda. Et en aval, la question de la décision politique qui pourra traduire les arbitrages prononcés par la Convention de citoyens. Alors, en amont donc la question des experts. Hein. Dans les conventions citoyennes, il y a forcément un comité d'organisation qui va gérer la logistique, le lieu où on les rassemble. Et puis, il y a un comité de pilotage.
Oui, très important.
Et alors, pour moi, c'est l'endroit maximum de tension, d'interrogation, d'inquiétude sur la capture idéologique du bidule. Parce qu'il suffit de désigner un certain nombre d'experts appartenant à un certain camp idéologique pour mimer le pluralisme, parce qu'on peut mimer le pluralisme, hein.
Oui.
Donner l'illusion, oui. Voilà, que c'est bon, les citoyens sont informés de manière à peu près diverse. Moi, je pense en fait aux querelles qu'il y a en ce moment dans les écoles d'économie. Vous savez qu'il y a un gros pan de l'économie orthodoxe qui domine toute l'institution universitaire, et puis il y a les économistes hétérodoxes qui disent mais on n'est pas entendu, on n'est pas audible, on n'a pas de poste en fac. Et les orthodoxes répondent, mais on incarne déjà le pluralisme, on n'est pas d'accord entre nous, donc on est déjà pluriel, c'est bon, la pluralité, elle est déjà incarnée. Et je me dis, un comité de pilotage qui serait en position de manœuvrer une convention citoyenne pourrait très bien mimer cette même diversité, et en faisant entendre essentiellement des orthodoxes.
C'est ce qui se passe en général, et
voilà,
c'est pourquoi...
Alors, comment s'assurer de la neutralité idéologique
du comité ? C'est pourquoi on a transformé les conférences de citoyens en conventions de citoyens avec un protocole qui, en particulier, définit un comité de pilotage. Alors comment on fait ? Ben, ce comité de pilotage, il est par définition composé des personnes qu'on peut appeler experts pour aller vite, qui se sont déjà exprimés sur le sujet, puisqu'en général c'est pour régler des sujets controversés, dont des gens ont écrit des articles, des bouquins, ont organisé une manif, ont créé une association. Bon, il y a des gens qui sont repérables dans la société et on les met dans le comité de pilotage, c'est-à-dire qu'on évite aucune position.
Mais on, c'est qui le on en fait ?
C'est le comité de pilotage.
Ouais, alors c'est des gens qui sont nommés, élus, tirés au sort, parce qu'il y a un on qui décide là.
Il y a un peu de tout. Il y a un comité d'organisation effectivement, où il doit même y avoir des parlementaires, si c'est au niveau national, ce qui devrait être le cas le plus souvent. Il doit y avoir une représentation parlementaire, parce qu'après, on viendra au deuxième point que vous avez soulevé, qu'est-ce qu'on fait avec la vie ?
Et
pour que ce soit pris au sérieux, il faut qu'il y ait un contrôle quand même, pour montrer qu'il n'y a pas eu de magouille. Bon. Mmh. Donc il faut qu'il y ait ça.
Moi, je suis pas encore rassurée là, sur le choix des experts.
Comment, et puis des techniciens de la démocratie représentative, c'est-à-dire jusque ça existe. Hein, jusque-là, c'est des sociologues universitaires, des juristes universitaires qui travaillent sur le sujet, qui savent comment on peut d'abord sélectionner les personnes, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais le tirage au sort est suivi d'une sélection. À la fois pour éviter les gens.
Ah oui, on va être trié parmi les tirés au sort.
Pour éviter. Bon,
ah oui.
D'abord, pour dire aux gens, voilà de quoi il s'agit, vous avez été tiré au sort, ça vous intéresse ou pas, voilà, faut vous engager à ça. Et bon, alors c'est là que beaucoup disparaissent, bon, peu importe. Et sur ceux qui restent, il y a ensuite une enquête qui est faite pour savoir s'ils ont déjà une position sur le sujet ou un intérêt à défendre une position sur le sujet. Et cela, on les élimine.
Alors ça, c'est un point aussi très, très problématique. Parce que derrière ça, ça veut dire qu'on disqualifie ceux qui relèvent du militantisme, de l'engagement, les gens les plus mobilisés. Et ça, ça vaut pour tous les militants du tirage au sort en général. Vous savez que le tirage au sort fait l'objet aujourd'hui de nombreuses luttes et on rencontre des adversaires politiques qui disent c'est atroce le tirage au sort parce que vous disqualifiez toutes les vertus de l'engagement, de la mobilisation,
mais
du militantisme.
Mais pas du
en
tout.
En gros, si on est volontaire, alors on est tout de suite mauvais.
Il faut comprendre la finalité. On n'est pas dans un truc d'éducation populaire quand on fait une conférence de citoyens. On est dans un truc de décision. C'est la pré-décision. C'est juste avant que les parlementaires votent un texte.
Bon.
Donc, si on veut mettre par exemple, les associations, lesquelles on met, elles ne sont pas forcément d'accord entre elles.
Non, bah justement, alors on fait quoi avec les associations ?
Mais on ne les prend pas.
On ne les met même pas comme parmi les experts ? On ne va pas les entendre parmi les experts entendus ?
Mais pas parmi les citoyens.
D'accord.
Donc on peut les prendre dans le comité de pilotage, s'il y a vraiment des positions qui ont été solidement faites, on va pouvoir prendre quelqu'un qui peut être un représentant associatif, qui peut être un universitaire, qui peut être un industriel, qui peut être bon, pour avoir un truc vraiment pluriel. Mais on peut aussi les avoir dans les formateurs. Il faut avoir dans les formateurs des gens qui ont toutes les
positions. Les experts et les formateurs, c'est pas les mêmes ?
Alors, bon, ça dépend de ce qu'on appelle expert. On peut dire que dans le comité de pilotage, il y a déjà une forme d'expertise, puisque c'est des gens qui connaissent le sujet, mais qui ont des positions différentes sur ce qu'il faudrait faire.
Ouais.
Donc ils sont quelque part un peu experts, même si c'est type de Greenpeace, par exemple, que jamais l'institution reconnaît comme un expert, mais seulement comme un agitateur. Mais là, il peut devenir un expert, en ce sens qu'il a une position argumentée. Mais il peut être ce même type de Greenpeace ou d'une autre association militante, il peut être aussi dans les formateurs, s'il a des qualités
formateurs, c'est-à-dire les gens qui vont être amenés à faire des exposés en direct aux citoyens tirés au sort.
Et ceux-là sont désignés par le comité de pilotage pluriel. D'accord. Ça veut dire, et c'est le moment, non mais vous l'avez bien senti, c'est le moment le plus délicat.
Ouais,
Et c'est le moment où il faut un président du comité de pilotage qui soit, sur lui repose énormément de choses.
Et cette personne-là, ce président, il est élu, nommé
Il est nommé par le comité d'organisation.
Et oui, mais on fait remonter la chaîne des responsabilités. Il y a forcément un endroit où les lobbies, par exemple, vont mettre toutes les pressions pour arriver à infléchir la décision.
Ils ne peuvent pas parce que tout ce dispositif ne se passe pas dans la transparence. La transparence, elle est à la fin quand la vie est produite. Mais oui, pour la seule raison, justement, que les lobbies pourraient intervenir, simplement en invitant à bouffer un ou deux citoyens, en travaillant sur les formateurs. Ils sont complètement ignorants de ce qui se passe, y compris de l'endroit où se passe la formation.
Ça, c'est sûr. Super casse-gueule à défendre aussi, hein. Le côté hyper clandestin, confidentiel. Mais oui, parce qu'on est aujourd'hui dans une revendication de la démocratie, de la transparence. On ne croit qu'en la vertu du tout dire, tout montrer. Et là, tout à coup, en pratiquant les conventions citoyennes, il faut revaloriser le principe de la confidentialité, la clandestinité. Ils se rassemblent dans un endroit où on ne sait pas où c'est,
On va prendre un exemple.
Ça fait complot un peu.
On va prendre un exemple qui répond à vos questions. Le fameux débat CIGEO. Vous savez, c'est sur l'enterrement, l'enfouissement, ils disent.
Des déchets nucléaires.
Des déchets nucléaires qu'on ne sait pas trop où mettre. Alors on veut les mettre sous le tapis, mais il faut. Bon, il y a eu plein de tentatives avec des pressions de l'ANDRA, du CEA, de tout ça, pour s'en débarrasser en les mettant à 800 mètres de profondeur dans la Meuse. Bon. Et il faut quand même, il y a des textes de loi qui disent qu'il doit y avoir un débat démocratique. Donc, il y a eu. La Commission nationale du débat public a été chargée d'organiser ce machin-là. Évidemment, quand elle a ouvert le débat public, les anti-nucléaires sont arrivés en force et ont complètement empêché le débat d'avoir lieu. Ils ont voulu faire reconnaître leur point de vue. Donc les gens de la CNDP étaient très embêtés. Et c'est là qu'ils se sont intéressés aux conférences de citoyens. Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, ils disent que c'est pas pour ça, que c'est parce que ça a une valeur en soi. Mais c'est parce qu'ils se sont dit, mais ce machin-là, on ne sera pas emmerdé avec les activistes. Hein, parce que c'est un truc qui se passe comme ça.
Clandestinement, alors, il faut le dire jusqu'au bout.
Ils ont voulu faire ça, mais ils ont choisi comme président du comité de pilotage la même personne qui a déjà été présidente de beaucoup de comités de pilotage, dans beaucoup de trucs, qui s'appelle Marie-Angèle Hermite,
qui est une juriste. Figure souvent en note de bataille.
Qui est une personne tout à fait exemplaire de rectitude, de savoir, de tout, et qui est extraordinaire pour faire ça. Et là, ils se sont cassés le nez. Parce qu'elle, elle a exigé vraiment qu'il y ait des anti-nucléaires qui soient dans le comité de pilotage, dans les experts. Et finalement, ce truc-là n'a pas conclu à quelque chose. La vie n'est pas extraordinaire, en ce sens qu'ils ont dit on ne peut pas conclure. Et c'est déjà extraordinaire. Les citoyens ont dit, vos expertises sont pas suffisantes. Vous n'avez pas démontré que la couche n'est pas perméable et que l'eau ne sera pas polluée par la radioactivité au bout d'un siècle ou deux. Vous n'avez pas démontré que les fûts, nanana. Mmh. Bref, on peut pas conclure. Refaites des études et puis après, on veut bien revenir pour essayer de donner un avis. Pour le moment, on peut pas. Ils pouvaient pas faire autre chose. Mais ça a été remarquable. Ça a été un truc remarquable. Bon.
Alors là, vous soulignez les qualités personnelles de Marie-Ange Hermite, c'est
Marie-Angèle Hermite.
Marie-Angèle Hermite, voilà, qui a été une formidable présidente du comité de pilotage. Et là, on est donc sur les vertus individuelles de quelqu'un de formidable qui a fait un travail extraordinaire. Et ça me fait penser au film.
Mais qui n'a rien à voir avec le sujet, hein. Elle n'a rien à voir
avec
le sujet.
Non, bien sûr, en tant que personne.
Elle est juriste du vivant,
mais voilà, mais elle a eu le souci de la neutralité, de la pluralité des avis, et c'est ces qualités-là qui ont permis de produire un jugement éclairé. J'y insiste parce que vous citez le film 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qui présente une situation de jury d'assises où des hommes tirés au sort vont être amenés à délibérer sur le jugement à prononcer pour un jeune homme accusé d'avoir tué son père. Et vous tirez exemple de ce film où on voit d'abord ce jury qui se prononce presque à l'unanimité pour la peine de mort pour ce jeune gars, et peu à peu la délibération, en fait un phénomène d'intelligence collective, va faire basculer le jugement. Alors, je voudrais qu'on voit un extrait de 12 hommes en colère, Sidney Lumet, 1958, pour voir comment ça se passe et quel héros il faut pour que ça ait lieu. On y va, c'est là.
All those voting guilty, please raise your hands. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. Okay, that's 11 guilty. All those voting not guilty? One, right. 11 guilty, one not guilty. Well, now we know where we are.
Boy, oh boy, there's always one.
Hello, what are we doing now?
Well, I guess we talk.
Boy, oh boy.
You really think he's innocent? I don't know.
I mean, you sat in court with the rest of us. You heard what we did. The kid's a dangerous killer. You could see it.
He's 18 years old.
Well, that's old enough. He stabbed his own father 4 inches into the chest. They proved it a dozen different ways in court. Would you like me to list them for you?
No. Then what do you want? I just want to talk.
Well, what's there to talk about? 11 men in here think he's guilty. No one had to think about it twice except you.
I want to ask you something. Do you believe his story? I don't know whether I believe it or not. Maybe I don't.
So how come you vote not guilty?
Well, there were 11 votes for guilty. It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.
Well, now, who says it's easy?
No one.
What, just because I voted fast? I honestly think the guy's guilty. Couldn't change my mind if you talked for 100 years.
I'm not trying to change your mind. It's just that we're talking about somebody's life here. We can't decide it in 5 minutes. Supposing we're wrong.
Supposing we're wrong. Supposing this whole building should fall down on my head. You can suppose anything.
That's right.
Look, what's the difference how long it takes? Suppose we do it in 5 minutes, so what?
Let's take an hour. Ball game doesn't start till 8 o'clock.
Who's got something to say?
I'm willing to sit for an hour.
Great.
I heard a pretty good story last night.
That's not why we're sitting here.
All right, then you tell me. What are we sitting here for?
I don't know, maybe no reason. Look, this kid's been kicked around all of his life. You know, born in a slum, mother dead since he was 9. He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery. It's not a very happy beginning. He's a wild, angry kid. That's all he's ever been. And you know why? Because he's been hit on the head by somebody once a day, every day. He's had a pretty miserable 18 years. I just think we owe him a few words, that's all.
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial, didn't he? What do you think that trial cost? He's lucky he got it. Know what I mean?
No.
Now, look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we? You're not going to tell me that we're supposed to believe this kid, knowing what he is. Listen, I've lived among them all my life. You can't believe him.
Alors, je voulais qu'on revoie cet extrait parce que le personnage interprété par Henry Fonda est vraiment un héros, et Sidney lui met le film comme tel, c'est-à-dire que c'est ses vertus individuelles qui vont peu à peu contaminer le groupe, et il va arriver à convaincre tous les membres du jury d'assises les convaincre de revenir sur leur intuition initiale. Mais donc il a fallu un héros. On est en plus dans un film américain où la bravoure individuelle fait partie vraiment des motifs privilégiés. Et la question qui se pose sur les conventions citoyennes, c'est justement est-ce qu'elles ne reposent pas entièrement sur la possibilité d'un héroïsme individuel, c'est-à-dire il faut un gars formidable qui va arriver à infléchir la psychologie des foules, parce qu'il y a quand même un peu éventuellement des phénomènes de psychologie des foules qui jouent, et pas dans le bon sens, voyez. Le groupe peut avoir des tentations de lynchage symbolique. Et là, il y a un héros. Alors,
d'abord, il y a une grande différence avec ce genre de jury, c'est qu'il n'y a pas une réponse en noir et blanc, coupable ou pas coupable. C'est une réponse, si vous regardez, j'ai mis en annexe des exemples d'une dizaine de conférences de citoyens qui ont eu lieu en France, enfin de toutes celles qui ont eu lieu en France, et vous verrez que les avis portent, les citoyens eux-mêmes découpent leur avis en morceaux en disant sur telle question, nous pensons que...
Ouais.
Nous pensons que à l'unanimité ou bien la moitié seulement sur telle autre question. Autrement dit, c'est beaucoup plus compliqué que de dire il est coupable ou il n'est pas coupable. Bon, et puis alors l'expérience montre qu'il n'y a pas de ces héros. C'est vrai qu'il y a des gens qui essaient de prendre le dessus, mais c'est pour ça qu'il y a un psychosociologue qui est toujours avec le jury, avec les citoyens, qu'elle a pour régler les conflits, pour servir de lien avec l'extérieur, parce que comme on a dit, c'est quasiment clandestin, pour éviter les pressions des lobbies. Mmh. Et il faut bien qu'il y ait une transmission. Et si les citoyens souhaitent quelque chose, par exemple, d'entendre un expert qu'on ne leur a pas proposé, d'avoir...
Oui, ça c'est sur le dernier week-end, donc, puisque tout à l'heure vous avez évoqué les deux premiers week-ends, ils ont les formateurs qui sont proposés par le comité de pilotage, et le dernier week-end, ils entendent ceux qu'ils ont envie d'entendre sur la question.
Donc, ce type qui est psychosociologue, mais qui a été choisi par ses compétences professionnelles, mais pas comme ayant un avis sur le sujet traité, évidemment, il modère un peu tout ça. Il empêche qu'il y ait des conflits. Et c'est vrai qu'il y a toujours des grandes gueules un peu partout, comme dans un immeuble, les copropriétés, comme... Bon, il y a tout. Mais le rôle de ce type-là, c'est tout de suite de remettre les choses en place.
D'accord.
Bon. Et là, c'est un peu étonnant. D'ailleurs, vous allez me dire, on est toujours dans l'héroïsme, parce que tout à l'heure, on parlait de Marie-Angèle Hermite, qui a présidé plusieurs comités de pilotage. Et le psychosociologue auquel je pense, qui s'appelle Lamoureux, il a été choisi dans plusieurs conférences de citoyens en France parce qu'il s'est comporté de façon extraordinaire. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est tout seul à le faire. Simplement, quand on connaît quelqu'un qui remplit bien le contrat, même s'il est cher, il vaut mieux prendre celui-là que quelqu'un dont on n'est pas sûr. Parce que c'est des positions, le président du comité de pilotage et le psychosociologue, c'est les positions peut-être les plus sensibles.
Vous disiez même s'il est cher, c'est-à-dire, vous dites dans le bouquin, une convention de citoyens, ça coûte entre 200 000 et 300 000 euros à organiser, ce qui peut sembler beaucoup, parce que du coup, il faut du capital. Et
il faut comparer
à
autre chose.
Voilà, il faut comparer,
Un débat public. Débat public, ça coûte 1 million, 1,2 million.
Ouais. Alors, il faut peut-être rappeler les différences qu'il y a entre un débat public et une convention de citoyens.
Le débat public, c'est un truc... Bon, c'est embêtant parce que le mot, c'est comme le mot démocratie ou je ne sais pas quoi.
Ouais.
On dit débat public, c'est quand du public va débattre. Non, un débat public, entre guillemets, c'est défini dans la loi. Dans la loi en France, c'est la seule procédure de participation qui soit définie, qui a été confiée à une espèce d'agence, à une institution qui est la Commission nationale du débat public, qui est créée pour organiser ces débats, qui en organise des centaines chaque année. Mais c'est surtout des débats locaux pour savoir si on va faire un pont sur la rivière, si on va construire un bout de route prolongé, des machins comme ça. Donc c'est local. Mais qui a été amené récemment, et maintenant c'est dans ses charges, à organiser des débats nationaux sur des thèmes d'innovation. Donc, on a dit le débat CIGEO, mais qui va s'intéresser aussi à d'autres choses. Donc, le débat public, ça consiste essentiellement à réunir dans des salles et sur Internet des gens qui ne sont pas choisis, qui viennent tout seuls et qui vont être confrontés à des experts à qui ils pourront poser des questions et ils obtiendront des réponses. Autrement dit, ce truc est sympathique parce que tout le monde peut poser sa question, mais c'est un peu comme à la télé. Au bout du compte, on ne sait pas qui est celui qui a posé la question, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut tirer de ça pour savoir quelle est la position de la communauté, que ce soit locale, régionale ou nationale. Qu'est-ce que représente s'il y a 15 personnes, par exemple, qui ont posé la même question? Est-ce que c'est une question qui est fondamentale pour tout le monde? Ou est-ce que ces 15 personnes font partie d'un groupe de 100 qui est un groupe de militants pour ou contre quelque chose? Autrement dit, on ne peut pas identifier les personnes et on ne peut rien tirer de l'avis qui est fait ensuite par un rédacteur qui est un employé de la Commission nationale du débat public. Il est désigné par la Commission pour rédiger. C'est un boulot monstrueux. Où il doit théoriquement
restituer. Ce qui a été formulé, mais en réalité...
Il y a eu des centaines de questions posées.
Ouais.
Qu'est-ce que ce type peut arriver à savoir de quelle est la position du Français sur le problème? Il ne peut pas, bien évidemment.
Alors que dans la Convention de citoyens, les citoyens tirés au sort sont eux-mêmes rédacteurs de leurs conclusions. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de délégation de la responsabilité de la synthèse. C'est eux-mêmes qui produisent.
On
ne
leur tient pas la main, exactement.
Ouais, ouais. Ça, c'est très important pour éviter
les biais. Ça, c'est dans la Convention de citoyens. Ce n'est pas dans la Conférence de citoyens.
Ouais,
il y a
ouais.
toutes sortes de cas. Hein.
Oui, ouais, c'est la Convention de citoyens.
Dans la Convention de citoyens, puisque nous avons écrit un projet de loi en 2007, que nous avons rendu public, mais en 2007, ça fait 8 ans quand même.
Ouais, ouais.
Et on attend qu'on n'a pas fait ça avec n'importe qui, avec Marie-Angèle Hermite par exemple, avec Dominique Rousseau, juriste constitutionnaliste qu'on voit souvent.
Ouais, oui.
Bon, avec des gens, avec Michel Calon qui est un type de l'École des Mines, un prof de l'École des Mines qui est un sociologue justement de la démocratie technique. Voilà les trois personnes avec qui nous avons travaillé pendant 2 ans. Quand je dis nous, c'est-à-dire l'association Sciences Citoyennes. que je représentais dans ces machins-là. Et nous avons travaillé, nous avons eu 15-20 réunions, on a vraiment fait du boulot. On est arrivé à écrire ce projet de loi sur lequel on attend que nos élus s'expriment. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je l'avais fait connaître pas à Ségolène Royal, qui parlait beaucoup de démocratie et qui
n'était pas suivi des
faits davantage que les autres.
Mais oui, vous signalez dans votre livre, l'urgence aujourd'hui n'est pas de multiplier les expériences, mais d'imposer la règle démocratique et donc, entre autres choses, d'obtenir l'enregistrement de la Convention de citoyens dans l'ordre constitutionnel. Faire rentrer la Convention de citoyens dans la Constitution. Alors, avec quel degré de contrainte? Il s'agirait de faire apparaître dans la Constitution un paragraphe qui dirait « Sur telle et telle question, tel type de question, doivent être convoquées des conventions de citoyens ?» Enfin, oui, comment vous imaginez le degré de contrainte?
C'est surtout, qu'est-ce que c'est qu'une convention de citoyens? C'est-à-dire de décrire la procédure assez précisément pour qu'elle ne soit pas dévoyée.
Oui, mais sauf qu'on peut la décrire, mais sauf que si jamais les élus ne sont pas contraints à la mobiliser, elle va rester lettre morte.
Non, mais ça, on l'a mis dans la loi. Ça peut être aussi sur des signatures, une pétition, par exemple, avec un certain nombre de signatures. Ça peut être à la demande de certains parlementaires, à d'autres institutions nationales. Il y a beaucoup de façons de convoquer le chose.
Oui, mais vous doutez bien qu'il y a en face de vous des classes dominantes et des classes d'élus qui n'ont absolument aucun intérêt à voir se propager ce genre d'initiative.
Un élu honnête aurait intérêt à ce que ces choses existent. Parce que comment voulez-vous qu'un élu honnête, c'est-à-dire qui ne succombe pas au lobby, puisse avoir un avis sur CIGEO, sur les OGM, sur... parce que tout ça est parti de la démocratie technique. Hein. Après, on viendra peut-être... Moi, je pense qu'il faut l'élargir à la démocratie politique.
On y vient.
Mais sur la démocratie technique, aucun élu n'a les compétences pour avoir une réponse dont lui-même serait certain que c'est la bonne réponse. Ouais. Donc, se reposer sur des gens qui n'ont pas d'intérêt particulier, ils ont été choisis comme ça, ils savent... De quoi ils retournent? L'élu n'a pas le temps de lire tout ce que font les citoyens dans cette affaire. Ils ont beaucoup de boulot. Ils discutent entre eux, c'est très important. Ils se fécondent entre eux. Et ce qui sort de là représente vraiment ce qu'il y a d'intelligence collective au niveau de la population, donc représente ce que je me permets d'appeler le bien commun. Pour un élu, c'est formidable de se saisir de ça et de dire, voilà ce que je vais défendre.
Mais oui, mais vous vous doutez bien que dès lors qu'on l'applique au champ des innovations technologiques, il n'y a pas tellement de raisons de se priver de cet outil pour réfléchir à d'autres grandes questions de société.
C'est pour ça que j'ai débordé un peu mon sujet.
Voilà, par exemple, on pourrait imaginer une convention de citoyens sur le thème du chômage, sur la question de la création monétaire.
Mais ce serait formidable.
Mais je suis bien d'accord, mais vous imaginez qu'est-ce qui sortirait de ce type de convention de citoyens?
Il sortirait de l'intelligence et du bien commun.
Et vous croyez que les élus auraient envie d'aller dans le sens de ce que les citoyens...
Oui, c'est pour ça qu'on est amené aussi, à ce moment-là, j'en parle dans le livre, on est amené à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ces institutions qu'on a. Et par exemple, à dire, bon, on a une chambre des députés qui sont élus. Bon, ok, pour le moment, il n'est pas question de tirer les députés au sort, mais en revanche, les sénateurs, on pourrait les tirer au sort.
Vous faites cette proposition-là, de doubler l'Assemblée nationale par un Sénat tiré au sort.
Qui traînent dans pas mal de milieux, effectivement, et qui pourraient doubler l'Assemblée nationale, des gens tirés au sort avec un mandat court, avec une formation quand même de sciences politiques au départ, avec un salaire honnête mais pas démesuré, comme l'ont actuellement nos élus nationaux, qui seraient renouvelés assez fréquemment, pas entièrement, mais par tiers ou par moitié pour que ça
éviter
continue, et dont la fonction serait essentiellement d'être un aiguillon vis-à-vis des députés élus, pour leur rappeler ce que demandent les gens, que là, il y a tel mouvement, qu'il y a une grève à tel endroit, qu'ils s'étaient engagés à ça, que bon, un aiguillon, et qui pourraient, eux, solliciter des conventions de citoyens chaque fois qu'il y a un problème pointu, que ce soit technique ou politique, un problème un peu compliqué, qu'ils délégueraient finalement à une convention de citoyens qui serait organisée avec des normes telles qu'on pourrait avoir confiance dans le résultat.
Vous mettez même ce Sénat tiré au sort en position de contrôle de l'Assemblée nationale élue, si je me souviens bien. Hein, vous proposez qu'elle exerce une fonction de contrôle sur les décisions prises.
Oui, se pose le problème s'il y a contradiction entre les deux.
Ouais.
Actuellement, c'est les députés qui l'emportent.
Ouais.
Alors là, bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, le référendum ne me paraît pas un truc, mais on pourrait, à condition de définir dans la Constitution peut-être, qu'est-ce qu'un référendum? Ce n'est pas défini pour le moment. Un référendum, c'est quelque chose où tous les gens pourront s'exprimer sur un point, sur un sujet, une question posée, et répondre oui ou non. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même dire comment on va leur apporter l'information.
Ouais.
Bon, eh bien, tout ça étant défini, un référendum pourrait permettre de trancher s'il y a une divergence entre les sénateurs et les députés.
D'accord, mais un référendum dans des conditions d'information...
Très strictes.
Oui, très strictes. Oui. Mais donc, en fait, tout ça, je veux dire, ne serait-ce que définir les conditions d'information dans lesquelles un référendum peut produire un résultat éclairé, ça aussi, il faudrait l'inscrire dans la Constitution. Mmh. En fait, il faut reprendre de fond en comble toute la Constitution.
Une sixième République.
Voilà, pour inscrire des règles qui permettraient qu'en effet, ces dispositifs puissent être aussi vertueux que ce qu'on clame. Il faudrait aussi qu'un référendum soit obligatoirement suivi des faits, parce qu'il y a la question de l'obligation de traduction politique de la chose. Là, si c'est cause toujours, vas-y, exprime-toi, dis-nous ce que t'en penses, mais en fait, le corps politique après n'est pas engagé, à ce moment-là, le référendum ne sert à rien, ni non plus les conventions de citoyens.
Ni les conventions de citoyens, c'est pourquoi il est dit dans notre projet de loi que les élus doivent s'emparer de l'avis des citoyens, le discuter au niveau de l'Assemblée nationale, exprimer éventuellement des divergences, voter nominalement, c'est-à-dire on doit les voir. C'est pas simplement de dire il y a une majorité là-dessus. S'ils sont 15 sur 1000 à être présents, ça n'a aucun sens. Mais nominalement, ceux qui sont contre doivent dire pourquoi, ils ont le droit. Bon, voter, alors éventuellement, il se pourrait qu'une assemblée élue soit contre l'avis des citoyens. Mais il n'empêche qu'on saurait qui a été contre et qu'on pourrait porter le chapeau sur l'avenir quand même.
Oui, mais alors voilà, finalement, en dernier ressort...
Non, mais ce serait une pression très forte.
Ouais, mais comme aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le dispositif de la Convention citoyenne, même dans l'hypothèse où elle est inscrite dans la Constitution et qu'elle devient un usage beaucoup plus massif, en réalité, c'est toujours les élus qui ont l'initiative des conventions citoyennes, puisque vous dites qu'il faut que les conventions citoyennes soient impulsées par des gens qui ont les moyens de mettre en œuvre la décision prise par les citoyens. Hein, il ne faut pas que ce soit organisé par des assos qui ensuite n'auront pas les moyens de transformer les choses.
Forcément.
Donc, ce sont les élus, au fond, qui impulsent les conventions de citoyens et ce sont les élus aussi...
Oui, ils peuvent
être
obligés de l'organiser s'il y a, s'il y a une pétition qui amène, par exemple, 100 000 demandes, 100 000 signatures, pour demander une convention de citoyens sur tel sujet.
D'accord.
On peut écrire que ça impose aux élus d'organiser ce truc.
D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, vous faites confiance aux élus, parce que moi, du coup, ça me paraît un peu la fragilité du dispositif. C'est qu'au fond, même si c'est hyper vertueux, le processus des conventions citoyennes, comme c'est les élus qui les impulsent et les élus qui les traduisent ensuite dans les faits, en dernier sort, finalement, c'est toujours les élus qui font ou ne font pas la démocratie.
Une très forte pression quand c'est sous le regard de la population, quand il y a des engagements, forcément. Alors, ils peuvent jouer à ça, une fois, deux fois, trois fois. Mais je veux dire, ça créerait une révolution assez vite.
Ah.
Oui, quand même. Bah, le coup de 2005, quand même, avec le référendum, on ne va pas nous le refaire. Hein. C'est un machin qu'on fait une fois par génération. Faites-le trois fois dans l'année, les gens sont tous dans la rue. Bah, évidemment.
Vous voyez, en France aussi, parce qu'il y a une forme d'inertie maintenant une capacité à encaisser les délits de démocratie. Là,
le
49-3, ça a l'air maintenant d'être extrêmement banal. On fait passer la loi Macron avec le 49-3. Ouais. Et j'ai l'impression que finalement, l'opinion française maintenant...
C'est pas illégal. Alors que de ne pas suivre la décision d'un référendum ne me paraît pas être légal.
Je ne sais pas.
Il me semble qu'un référendum qui est organisé par les institutions pour avoir l'avis des citoyens, il me semble qu'il
est
écrit quelque part.
Mais alors, donc on est dans l'illégalité, la démocratie française est dans l'illégalité la plus complète depuis le traité de Lisbonne qui a mis en acte le TCE qui avait été refusé.
Je ne suis pas juriste, mais je crois bien que oui.
Ah. Bon, là,
simplement, on nous explique que ça n'est pas contraire, que finalement, ce qui a été mis, c'est ce que les gens pensaient, mais ils ne savaient pas l'exprimer. Enfin, bon, tourne autour du pot, quoi.
Ouais, ouais.
Mais quand on leur pose une question, ils répondent non, ils ont dit non, point.
Oui, oui, je suis bien d'accord, mais j'ai l'impression
mais
que...
Mais je crois qu'on ne peut pas leur faire le coup plusieurs fois, eux-mêmes, je pense. Parce que quand même, ça a laissé des traces, ce truc-là. Et ce serait pareil pour des conventions de citoyens qui seraient trahis par les élus. Ils le feraient une fois, deux fois, mais... Et puis, il y aurait aussi peut-être le Sénat tiré au sort derrière qui pousserait. Mais c'est vrai qu'il faut un grand coup de balai. Moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les élus, parce que peut-être qu'un jour, on en arrivera à une véritable démocratie qui naîtrait comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas là. Pour le moment, il faut des institutions.
Oui, le montage que vous proposez est un montage mixte, avec une chambre élue, une chambre tirée au sort, et un travail de contrôle et d'influence...
Mais en gros, je ne crois pas que ça va être accepté. Si vous voulez, mon idée, c'est un peu de produire une boîte à outils, bon, pas moi tout seul, mais il y a plein de gens, qui produisent aujourd'hui des outils qui pourraient servir dans le cas d'une explosion révolutionnaire, qui peut arriver très vite.
Vous sentez ça ?
Je sens, pour le moment, on ne sent rien, hélas. Mmh. Mais qui sait, peut-être que l'année prochaine, ça peut changer très vite, comme on a vu en Grèce, en Espagne, il se passe dans les pays arabes. Il y a des choses qui arrivent.
Mais justement,
mais
ouais, en Grèce, en Espagne, ils sont en train de se réconcilier avec l'idée de la politique représentative. C'est-à-dire que
qu'ils n'ont pas la boîte à outils. Mais si on a la boîte à outils avant, si on a ça qui est prêt. Mais c'est pour ça qu'il faut en discuter, comme on est en train de le faire. Mais il faudrait aussi que les élus prennent des positions et tout, et que ce soit un truc en débat. À ce moment-là, ça peut très vite faire irruption au moment d'une explosion révolutionnaire et de dire on change les règles du jeu. Mais il faut avoir les outils. On ne les crée pas au moment de la crise.
Oui, non, mais j'entends bien. Donc là, on est dans la forge. On est en train de fabriquer les outils pour le moment où on arriverait.
J'essaie de contribuer à ça.
Mais oui, mais on a en face de nous des classes dominantes. C'est marrant,
absolument.
D'ailleurs, parce que vous n'employez jamais le terme de lutte des classes. Hein. Vous vous opposez, c'est plutôt les citoyens, le bien commun versus les élus qui peuvent être éventuellement manipulés par des lobbies ou avoir le souci que de leur intérêt personnel. Mais vous n'employez jamais l'expression de la lutte des classes. Et derrière, il y a un horizon de violence, il me semble, dans votre proposition, qui est comme escamoté. Vous n'envisagez pas le fait que c'est un rapport de force très violent d'imposer de la démocratie à des classes dominantes qui n'y ont pas intérêt.
Je n'impose pas là-dedans, parce que mon sujet, c'est de défendre une procédure.
Ouais.
Donc, ce n'est pas de rentrer dans la lutte des classes.
Ouais.
Mais c'est bien évident, et ça, je l'ai écrit dans d'autres trucs et dans ma vie personnelle.
Ouais.
Évidemment, la lutte des classes, elle est toujours là.
Ouais.
Et on a, si les élus sont là et représentent des intérêts particuliers, ça, je le dis quand même.
Oui, oui. Non, c'est juste l'expression et aussi l'horizon de violence. Parce que quand vous évoquez votre...
Je ne sais pas si on gagne toujours avec des expressions qui, après, recoupent d'autres choses et qui font finalement un refus d'entendre ce qu'on a à dire.
Ah, vous pensez que c'est des repoussoirs, que c'est des formules repoussoirs aujourd'hui ?
Certaines expressions, on peut les contourner.
Comme lutte des classes, par exemple, ce serait...
On peut les contourner. Sans perdre.
Oui, non, mais parce que c'est pas seulement classe que vous éliminez, c'est lutte aussi. On a l'impression que ça va se passer tout seul, qu'il va y avoir, à force de travail et de patience, il va y avoir distillation de cette idée, puis qu'elle va atterrir dans la Constitution, l'idée de la Convention de citoyens. Moi non plus.
J'y crois qu'elle arrivera à l'occasion de la lutte des classes. C'est pour ça que je fais allusion à des grèves, à des mouvements comme ça.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas vraiment la mode. Mais je pense que c'est pas possible qu'on continue comme ça, il va se passer des choses.
Ouais.
Et moi, ma modeste contribution, c'est de travailler pour mettre un nouvel outil dans la boîte, d'essayer ensuite d'harmoniser les outils qui sont discutés actuellement. Hélas, il n'y a pas beaucoup d'outils discutés, parce que même à l'extrême gauche, on est en train de reproduire la même chose avec des gens nouveaux, avec le biais de l'Internet, avec la démocratie.
C'est intéressant ce que vous dites sur Internet, d'ailleurs. Vous dites les conventions de citoyens, attention, c'est important que ce soit en vis-à-vis, c'est du face-à-face, c'est de l'interaction humaine. Alors que c'est vrai que maintenant, on est très habitué à trouver sur Internet des outils de la démocratie, de la révolution.
Il y a un Canadien qui m'a écrit il y a 3 jours et qui m'a proposé qu'on travaille ensemble pour faire des conférences de citoyens 2.0.
Alors vous n'y croyez pas du tout.
Mais l'humanitude dont on parlait tout à l'heure, elle ne peut pas se manifester sur Internet. Elle est dans le face-à-face, dans les visages, dans les mains, dans la chaleur humaine, dans la bouffe qu'on prend ensemble, dans le coup qu'on boit, dans tout
d'accord.
ça.
Parce que pourtant, dans le référendum de 2005, ça a énormément compté la communication sur Internet. Moi, je me souviens que là où on s'informait par rapport aux médias dominants qui nous donnaient que du on avait des tas d'infos
mais
et d'arguments
discutait.
Sur
les
Internet.
Gens voyaient ça dans le canapé du salon, ou bien ailleurs dans la rue, ou bien... Mais il y avait des groupes qui discutaient, et là, dans cette chaleur humaine, se crée quelque chose de beaucoup plus fort que dans en étant spectateur sur Internet. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser Internet pour passer des informations. En particulier, sur un débat technique, on peut très bien passer des courbes, des machins, des experts. Bon, mais il faut quelque part de la chaleur humaine.
Ouais.
Il faut de l'humanité. Et l'humanitude, elle ne se fait pas sur Internet.
Ouais, d'accord. Alors, vous évoquiez la question de l'accueil politique, y compris dans la gauche critique, de ce type d'outils.
Ouais, je suis désolé de ça.
Oui, avec pas mal d'amertume. Mais il me semble qu'il y a un phénomène dans la gauche radicale qui semble peu disposée à recevoir des outils qui sont pourtant... des outils d'émancipation du peuple. Comment vous analysez cette réticence de la gauche critique à s'emparer de ces outils-là ?
Le poids des habitudes de la culture d'extrême gauche, la culture révolutionnaire, où il n'a jamais été question de tirage au sort, et que c'est quelque chose qui est irrecevable pour énormément de militants, de personnes engagées politiquement. C'est irrecevable de changer ce système où on dit... élection égale démocratie.
Mmh.
puisqu'on vous dit actuellement tel pays est un pays démocratique puisqu'il y a des élections libres.
Voilà, c'est le seul critère.
Bon, une élection libre, voilà, ça égale. Je suis pas d'accord. Ça veut pas dire que c'est démocratique.
Ouais, mais il y a peut-être aussi quelque chose du logiciel de l'avant-garde éclairée dans la gauche.
Alors,
critique. On est
possible.
Toujours un peu persuadé qu'il y a quand même des élites intellectuelles
pas avoué,
plus compétentes.
Oui. Alors ça n'est pas avoué, mais ça doit certainement jouer. Oui. Alors on se réclame du peuple, on veut le bien du peuple, mais on a peur du peuple. Effectivement.
Et alors, donc, comment court-circuiter ça? Parce que du coup, pour porter ces idées des conventions citoyennes, finalement, vous n'avez pas l'appui des politiques,
non,
des partis politiques. Et c'est quand même un peu un souci, parce qu'il s'agit d'inscrire ce projet-là.
Ni du milieu associatif, qui se sent aussi... Moi, j'ai vu des gens, des camarades, me dire « Mais pourquoi tu fais venir des gens pour parler de tel problème, je ne sais pas, des OGM, du nucléaire, alors que nous, on sait très bien... on peut te dire quelle est
la
solution.
Sûr.
Oui, d'accord, mais si je la demande à Greenpeace, je n'aurais pas la même qu'aux Amis de la Terre, je n'aurais pas la même qu'ailleurs. Donc, ce n'est pas non plus aussi simple. Il y a plusieurs solutions possibles. Où est l'objectivité là-dedans? Alors, autant je crois qu'il faut s'engager, moi-même je suis engagé, il faut être dans les associations et tout ça, autant je crois qu'on ne peut pas dire c'est telle association ou tel parti politique qui a la vérité. Et c'est pour ça que ce truc, la Convention de citoyens, permet non pas de court-circuiter, mais permet de parachever ce qui se passe dans la société civile, où il y a des mouvements, il faut des mouvements évidemment, il faut du militantisme au jour le jour, il faut des manifs, distribuer des tracts, répandre des idées, bien évidemment, mais tout ça c'est aussi ça va aussi armer les citoyens dans le débat sur un sujet.
Ouais, en fait vous distinguez en fait le travail
au long cours du moment de la décision.
Ouais, c'est pas seulement la temporalité, en fait il y a deux types d'activités, il y a le militantisme qui va promouvoir une certaine analyse et puis il y a la délibération citoyenne qui est responsable de la décision et ces deux activités séparées. On peut
toujours avec la perspective du bien commun.
Ouais.
Qui est habilité à dire le bien commun? Personne, c'est seulement dans chaque circonstance, une certaine conformation sociale qui est donnée par la Convention de citoyens, je crois, qui peut permettre de définir, dans ce cas-là, voilà, le bien commun, ce serait ça. Et puis après, il faut prendre d'autres gens, parce que ça, c'est vachement important. Je veux dire, on ne répète pas avec les mêmes, donc on prend d'autres gens, on les forme avec d'autres experts, d'autres machins, ils vont aussi dire voilà ce qu'on pense. Moi, ça me paraît être un outil extraordinaire, qui révolutionne l'idée qu'on avait de la démocratie.
Ah ça, je suis bien d'accord que c'est un outil révolutionnaire, mais il met à la peine plein de nos réflexes de philosophie politique.
C'est déjà
beaucoup,
c'est déjà bien.
Parce que, notamment, il pose que la démocratie passe à un moment par l'exclusion du champ citoyen de plein de gens. C'est-à-dire que les tirés au sort, ils sont très peu nombreux. Une convention de citoyens, c'est 15 personnes.
Oui.
Et du coup, par rapport à l'idée qu'on a de la démocratie, qui consiste à dire que chacun s'exprime, tout le monde parle, la démocratie, c'est tous les électeurs, là, tout à coup, il y a juste 15 d'entre eux qui vont pouvoir parler, et les autres ont l'air d'être complètement impuissantés, exclus. Ils peuvent pas suivre le travail, tout est clandestin,
non,
c'est caché.
Non, mais ce qu'ils ont dit va être analysé par les citoyens. S'ils ont dit des choses importantes sur le sujet, ça va faire partie de la formation. On dira, un tel a dit ça, l'autre l'a contredit comme ça, un troisième a apporté un point de vue. Les citoyens vont avoir tout ça à consommer et vont le discuter entre eux pour donner... c'est la recherche d'une objectivité qui n'est jamais parfaite. Hein, pas d'illusion, je ne suis pas naïf. Hein, mais on ne peut pas faire confiance à un groupe préconstitué pour donner un avis sur un sujet précis. Je ne crois pas. Donc il faut constituer le groupe... avec des contrôles, avec des systèmes de sécurité démocratique, pour lui permettre de produire quelque chose qui va servir à tout le monde.
Moi, je continue de me poser des questions sur l'endroit, le haut, le sommet de la pyramide, c'est-à-dire comité de pilotage, comité d'organisation, parce que je pense que c'est l'endroit où se concentre le maximum de risques de capture du projet. Et je n'ai pas encore eu bien la réponse à ma question, mais qui c'est qui désigne le comité de pilotage? On fait l'hypothèse qu'on on est dans la 6e République, on a mis en place le principe des conventions de citoyens, il existe une chambre des citoyens, une maison des citoyens. Alors, cette maison des citoyens,
elle permettrait d'abord de faire des économies, parce qu'actuellement, ne serait-ce que pour tirer au sort les 15 personnes, c'est-à-dire faire le tirage au sort sur les listes électorales, c'est ce qu'on fait le plus souvent, ensuite interroger ces personnes, savoir si elles sont d'accord, ensuite vérifier qu'elles n'ont pas un intérêt particulier à défendre, c'est un boulot qui demande déjà énormément d'argent, parce qu'il y a des instituts de sondage qui sont compétents pour faire ce genre de trucs, mais qui se font payer.
Oui.
Et qui d'ailleurs, je signale quand même une dérive, actuellement vous avez sur les sites de ces institutions, vous avez, nous organisons des conférences de citoyens clés en main.
Ouais. Et que ce clés sera bon pour votre com, ils alors, vendent ça aux entreprises en disant faites des conventions citoyennes.
On vous fournit les citoyens, les questions et quasiment les réponses. Et il suffit de payer. Et c'est confortable pour ceux qui veulent une réponse démocratique à un sujet. Donc... pourquoi je parlais de ça?
Parce qu'on était sur la maison de citoyens et vous dites que ça va faire des économies. Alors vous venez dire que ça coûte ça.
Oui, une maison de citoyens, elle serait par exemple au 16, au Conseil économique, social et de l'environnement, par exemple, où elle serait à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Il faut qu'elle soit dans une structure qui a les moyens ensuite de faire quelque chose avec la vie des citoyens et qui ait la respectabilité. On disait tout à l'heure, ce n'est pas une association qui peut organiser ça. Donc là, on peut recruter un ou deux professionnels de l'enquête, de l'analyse, épidémiologistes, enquêteurs. Bon, c'est des métiers où il faut quand même un savoir-faire. On peut avoir des locaux pour héberger les citoyens pendant ce machin-là, au lieu de les mettre dans un hôtel.
Oui, mais après, si on sait où ils sont, il va y avoir les lobbies qui vont débarquer pour les
manipuler. Ils vont peut-être avoir du mal à rentrer. Non, mais on peut quand même protéger. Là. On peut protéger le truc. On peut donc avoir là une espèce de base arrière où cette institution, alors par exemple si c'est le conseiller économique et social, il pourrait très bien, alors il serait chargé à ce moment-là de désigner le comité de pilotage.
Ouais.
Bon, alors, je pense qu'il faut que ce soit écrit aussi, ça, dans quelles conditions. Mais s'il y a des oppositions sur certaines personnes du comité de pilotage, il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait un vote, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pas un machin où une personne seule va dire « je mets machin, machin et machin ».
D'accord, c'est collégial et là, alors, pour le coup, il faut que ce soit transparent. C'est-à-dire qu'il faut que ce moment-là, il n'est pas confidentiel. Il faut que le public ait accès à ce travail pour pouvoir contester si jamais le pluralisme des expertises n'est pas respecté.
Alors de même, dans l'expertise, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a l'histoire de cahier d'acteurs. Ça existe déjà avec la Commission nationale du débat public. C'est-à-dire, les cahiers d'acteurs, c'est des gens qui vont pas être à la tribune comme experts, mais qui vont apporter quelque chose, un film, un bouquin, un texte, quelque chose, une position dans la société. Et ça, pour le moment, dans la commission de débat public, c'est donné à tout le monde, puisqu'on n'a pas sélectionné les gens. Bon, personne ne lit évidemment tout ça, ça fait une masse énorme.
D'accord.
Dans la convention de citoyens, ce serait présélectionné par le même comité de pilotage, dont la puissance démocratique, c'est qu'il est composé de gens pas d'accord entre eux, qui vont prendre des décisions ensemble, au consensus.
Ouais.
Donc des décisions consensuelles par des gens qui ne sont pas d'accord entre eux nous paraît être le meilleur modèle pour arriver à approcher une vérité objective. Et ils vont le faire pour désigner les experts qui vont parler aux citoyens, le temps de parole qui est accordé à chacun. Ils vont le faire aussi pour ces cahiers d'acteurs.
D'accord.
Qu'ils vont pouvoir sélectionner, pour pas abrutir les gens avec des masses de trucs, mais choisir les choses essentielles en se mettant d'accord sur... Alors, c'est un boulot, ils vont se taper dessus, c'est sûr, dans ce comité de pilotage. Ça va durer un certain temps, mais c'est le prix de la démocratie.
Ouais. Et alors, on est d'accord qu'aucune question ne peut a priori être exclue. Les conventions de citoyens peuvent délibérer sur toutes sortes de questions.
À condition que ce soit
questions.
Une question controversée. Parce qu'il faut déjà que dans la société, il y ait une sensibilité, ne serait-ce que pour avoir l'accord des citoyens pour y travailler, même, et ne serait-ce que pour reconnaître, identifier les experts. Il faut qu'ils se soient exprimés.
Ouais.
On ne va pas choisir un tel en disant, tiens, il serait capable. Non,
non.
C'est quelqu'un qui a déjà montré qu'il est capable de dire quelque chose, mais un autre est capable de dire autre chose. Donc on peut identifier des gens qui se sont exprimés sur le sujet. Autrement dit, c'est pour les controverses. Mais il y a tellement de sujets de controverses, il y a de quoi s'occuper.
Oui, non, puis des questions centrales. J'imaginais... C'est vrai que c'est un outil révolutionnaire, parce que j'imaginais une convention de citoyens qui s'emparerait, par exemple, de la question du revenu d'existence, salaire à vie, vous savez, ce genre de questions-là.
C'est des questions qui sont déjà controversées, on a identifié des gens qui portent des propositions et qui pourraient effectivement...
Et alors là, c'est génial, parce que s'il y a une obligation de traduire ensuite dans les faits, dans la décision politique, les décisions prises par les citoyens, on peut espérer vraiment changer le monde, là.
Et c'est pas au niveau national non plus qu'il faudrait régler ça. Déjà, au niveau européen, ce serait quand même un peu mieux, ouais. Mais je pense que c'est au niveau mondial. Si on parle des déchets nucléaires ou des OGM, ouais. C'est pas au niveau européen, au niveau d'un continent, qu'on peut régler ces problèmes, où ça transpire partout, ça passe les frontières. Donc, c'est l'ONU rénovée qui pourrait organiser des conventions de citoyens internationales. Parce que quelque chose que je n'ai pas dit et qui est extraordinaire, et qui serait, parce qu'on me dit, mais enfin, 15 personnes, ce n'est pas beaucoup, ils peuvent se planter. Je dis, OK, alors on fait 3 fois ça, 3 fois 15. C'est-à-dire qu'on organise 3 conventions de citoyens sur le même sujet.
Qui ne se consultent pas
entre
eux.
En même temps, ouais. Non, ils ne se consultent pas entre eux.
Ouais, ouais.
Justement, pour éviter qu'il y ait une contamination, une influence de l'une sur l'autre, et on verrait ensuite s'ils ont le même avis. Bon, moi, je suis un scientifique, c'est ce qu'on fait avec les souris. On fait des lots de 15 souris, on en fait 3, ben c'est pareil.
D'accord.
Et si on a la même réponse, c'est bien mieux que d'avoir 300 souris dans un seul lot.
Ouais, ouais.
On peut avoir là des biais très importants. C'est
D'accord.
comme ça que la science travaille aujourd'hui et qu'elle se plante régulièrement.
Ouais.
Ben, moi, je suis pour des lots de petits groupes, alors que ce soit des animaux ou des gens, mais dans lesquels on reproduit le même protocole.
D'accord.
Et si on obtient toujours la même réponse, ça a du sens.
Ouais.
Donc voilà, alors au niveau de l'ONU, il y a à faire. On pourrait, dans différents pays du monde, prendre des gens et avec des protocoles comme ça. Alors je sais bien que c'est difficile, mais... J'essaie de trouver des solutions à la merde dans laquelle on vit. Quoi.
Ouais, ouais. Il ne manque que la volonté politique hein, pour traduire tout ça dans les faits. Merci beaucoup, Jacques Testard, pour cette formidable boîte à outils pour refonder la démocratie. Et donc, vous l'avez compris, changer le monde. Moi, je prends ça très au sérieux et j'y crois beaucoup. Je vous encourage donc à lire L'humanité au pouvoir, comment les citoyens peuvent décider du bien commun. Vous avez vu qu'il y avait des tas de pistes à explorer. Merci encore.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut.